Nous arrivons avec ce texte de 2 Pierre, chapitre 2, en plein au cœur du message de la deuxième lettre de Pierre. J'ai demandé à Quentin de lire ce passage, parce que je m'étais dit que c'était la meilleure introduction. Ces paroles sont terribles, sont extrêmement fortes. Alors, on pourrait se dire que Pierre, qui est proche de la fin de sa vie, commence à délirer. Non, je crois qu'il est lucide sur un danger qui arrive. Peut-être que ce matin, en tant qu'Église, on ne se sent pas forcément concerné par le sujet des faux docteurs. Peut-être qu'on est un peu comme un petit enfant, pas conscient du danger. Mais Pierre, lui, est comme un père conscient du danger et qui veut nous en avertir. J'aimerais juste préciser que si ce matin nous sommes sans peur, peut-être face à ce sujet, ça peut être pour deux raisons. La première, parce que vous êtes jeune dans la foi, jeune converti, et que vous ne semblez pas qu'il y ait de faux docteurs dans l'Église, dans notre Église, que vous n'avez peut-être pas été confronté à des enseignements qui vous semblaient faux. Et c'est simplement, je dirais, la jeunesse de votre foi, la naïveté quelque part, mais ça existe. Si par contre vous êtes un chrétien, un croyant averti, affermi, et que vous pensez que tout cela ne vous touche pas, peut-être que vous êtes déjà, comme ces faux docteurs, dans une certaine arrogance. Croire que des faux enseignements ne sont pas là, ne sont pas présents, ne peuvent pas nous atteindre, serait lourdement se tromper. Alors Pierre utilise des mots forts, hein, ça finit bien avec le chien et la truie, des mots forts pour exposer un danger réel. Alors ce matin, je n'ai pas la prétention d'élucider tous les détails de ce chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler après, à venir me voir ou un des responsables de l'Église. On sera à votre disposition pour discuter, comme toujours, de la parole de Dieu. Mais je crois que dans ce passage, et ça sera un peu l'idée de mon message ce matin, nous voyons trois réalités. Il y a une réalité qui est déjà présente. Il y a de faux enseignants, de faux docteurs. Il y a aussi une réalité ultime, c'est que Dieu a toujours le dernier mot. Ça, c'est les versets 4 à 10. Et nous voyons aussi à la fin de ce chapitre, ce que nous avons longuement lu, la réalité destructrice de ces faux enseignants, de ces faux enseignements. Alors tout d'abord, la réalité qui est déjà présente, ou plutôt je pourrais dire une réalité, comme Pierre le dit là, future, mais qui a déjà commencé. Il y a dans l'Église de faux docteurs. Mais peut-être que ce n'est pas encore visible aujourd'hui. C'était sûrement le cas à l'époque de Pierre, et c'est sûrement encore le cas aujourd'hui. Dieu révèle cela pour nous avertir. Il faut se rappeler que juste avant ce chapitre, Pierre nous a sommé d'écouter la parole de Dieu. Et là, il commence le chapitre en disant « Comme il y a eu de faux prophètes, des prophètes de mensonges, il y aura de faux docteurs, des docteurs de mensonges, qui s'opposeront à la voie de la vérité. » Il y a cette comparaison, cette analogie par rapport au peuple de Dieu, l'ancien peuple de Dieu, le peuple d'Israël, où il y avait des faux prophètes, et le nouveau peuple de Dieu, l'Église, où il y a de faux docteurs. Et en gros, Pierre nous dit « Ce qui est arrivé se répétera et va se répéter. » Là, on pourrait dire, mais pourquoi ? Quelle est l'utilité ? Quelle était déjà avant l'utilité que Dieu laisse des faux prophètes ? Et parfois, on le voit dans la Bible, ils étaient assez nombreux. Élie, tout seul, face à plein de faux prophètes. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il laissé cela ? Il me semble que si Dieu a permis de tout temps qu'il y ait de faux prophètes, qu'il y ait de faux docteurs, c'est quelque part pour mettre à l'épreuve le cœur des membres du peuple. En fait, Dieu connaît les cœurs. Mais nous, parfois, nous ne connaissons pas nous-mêmes nos propres cœurs. Et nous avons besoin de choses qui nous mettent un peu à l'épreuve pour que le fond de nos cœurs soit révélé. Dieu, par son esprit, adresse une parole qui est dure, mais où en réalité, il se soucie de nous. Il se soucie de nos cœurs. Pour l'Église, il y a deux dangers. C'est la persécution ou la terreur, d'un côté, qui est plutôt extérieure, et l'erreur, qui est intérieure. Quand on commence à négliger certains passages de la parole de Dieu, à relativiser certains passages, ou à banaliser la parole de Dieu, eh bien, on rentre, on glisse tout doucement dans l'erreur. Et le but ce matin, c'est que chacun d'entre vous puisse pas juste écouter ce que je vais dire, ce que l'on dit chaque dimanche, mais aussi que vous puissiez vérifier, voir si ce que l'on dit est juste, si ce que je dis ce matin est juste. Vous n'êtes pas là pour consommer, pour écouter simplement un message. Vous êtes là pour vraiment réfléchir, méditer, si ce que je dis est bien la parole de Dieu. J'espère que, sans que ça soit méchant ce que je veux dire, mais que vous n'êtes pas assez bête pour me suivre ou suivre simplement un enseignement qui serait donné. Ces faux docteurs dont Pierre parle semblent avoir goûté à la grâce. En tout cas, visiblement, ils connaissent le langage évangélique. Ils sont de bonnes personnes, ils ont sûrement fait de bonnes choses, mais leur doctrine pose problème. Dans ce qui est dit là, dans ce que dit Pierre dit ici, quand il parle d'hérésie, il faut savoir qu'une fausse doctrine, une hérésie, c'est quand on choisit de croire ce qu'on veut croire. Un hérétique dit toujours des choses très justes. Le problème, c'est qu'il dit aussi des choses très fausses. Un hérétique ou un faux docteur ne serait pas là, pendant un culte, à renier ouvertement Christ. Ça serait trop flagrant, trop facile à détecter. Non, mais de manière insidieuse, il va insinuer, il va détourner, il va vider l'évangile de sa substance. Quand quelqu'un choisit ce qu'il veut croire, il est à coup sûr en train de se détourner de la parole de Dieu, parce qu'il écarte une autre partie. Ce qui semble assez flagrant avec ces faux docteurs, c'est qu'ils ont une certaine arrogance, une certaine manière de parler des choses spirituelles. J'ai déjà plusieurs fois, peut-être vous aussi, entendu des enseignements de personnes que j'appellerais des faux docteurs, qui semblaient être comme ça, très, comme s'ils étaient supérieurs au monde spirituel. Quand je pense à l'apôtre Jean, qui était pourtant l'ami le plus intime de Jésus, qui lui-même, ami le plus intime de Jésus, a été terrifié par la gloire de ce Jésus, qui s'est révélé à lui, il dit « Mais comment les personnes semblent comme ça en apparence, montrer qu'ils sont au-dessus un peu de tout, comme s'ils étaient potes avec Dieu ?» Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui présentent leur vision de Jésus et en font une description qu'on peint comme juste un simple ami doux, paisible, et qui surtout le détache de Dieu. Il faut être vigilant à cela. Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas un ami, qu'il n'est pas doux, mais que quand nous scindons ce que Jésus est, quand on ne s'attache qu'à une partie de ce qu'il est, à une partie de son enseignement, nous sommes en train de glisser dans l'erreur. Christ a payé pour les fautes de tous, mais visiblement tous n'en profitent pas. Il faut se tourner vers lui, admettre son besoin de lui pour être au bénéfice de sa grâce. Le salut est pour tous les hommes, mais il n'est efficace que pour un certain nombre, ceux qui sont élus et qui se repentent avec confiance. Ces faux docteurs, visiblement, ne sont pas des enfants de Dieu. Et ils ont une doctrine qui s'oppose, chose flagrante dans ce passage, une caractéristique flagrante, c'est qu'ils s'opposent à la seigneurie de Jésus-Christ. Ça peut être de manière très subtile, ça peut être en essayant de moderniser, adapter certains passages. On peut avoir peut-être parfois peur de ne pas être consensuel. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train d'être hypocrite? On a peur, en parlant du jugement, peut-être de montrer un Dieu qui manquerait d'amour. Non, en fait, lui, Pierre, a un amour robuste qui avertit le peuple de Dieu. C'est vrai que la vie chrétienne demande des efforts. Je ne parle pas des efforts pour gagner un salut, mais des efforts à faire dans sa vie chrétienne pour se détacher du péché, pour faire mourir le péché. Mais peut-être qu'on se dit parfois que c'est plus simple d'écouter des messages qui nous disent qu'il n'y a pas d'effort à faire, qu'il n'y a pas de péché à fuir, qu'on peut tout simplement se laisser aller. Et on voit que ces docteurs, eh bien, ont beaucoup de succès. Le texte nous dit « beaucoup les suivent ». Quelque part, ce n'est pas étonnant. L'évangile, l'autorité de la parole de Dieu n'attire pas forcément. Parce que, vous avez peut-être déjà vécu ça je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver les miroirs déformants. Vous connaissez les miroirs déformants? J'ai vu une fois ça, je ne sais plus si c'était dans un parc ou bref, je ne sais plus. Parfois, on préfère peut-être la vérité un peu déformée, hein, qui nous affine, qui nous grandit, que d'avoir la vérité vraie, que d'avoir le vrai reflet. Et le problème avec la parole de Dieu, c'est qu'on a le vrai reflet. Ce n'est pas trop ce qu'on a envie de voir. Mais c'est ça la vérité. La parole est un miroir vrai qui ne déforme pas. Et du coup, ça peut rebuter. Ce qui est frappant aussi dans ce passage, c'est que les fausses doctrines, les erreurs, vont souvent de pair avec une vie déréglée, avec une vie dissolue, avec une soif d'argent. Et à cause de tout cela, la voix de la vérité, nous dit la parole, sera calomniée. Les gens qui verront comment certains prédicateurs se comportent seront dégoûtés de la parole de Dieu. D'autres, peut-être, sont attirés, mais pour de mauvaises raisons. Attirés par un discours qui promet que le bonheur, que la prospérité. Mais nous voyons, dès le début de ce passage, dès le début de ce chapitre, que la destinée de ces faux docteurs est un jugement qui est déjà en marche. En reprenant le psaume que Quentin nous a lu, il faut avoir peut-être une chose en tête, c'est que le jugement de Dieu, c'est de manière plus large le règne de Dieu. Quand Dieu va venir pour régner, il va en même temps juger. Pour nous, c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à concevoir, parce que dans notre société, celui qui règne, qui préside, n'est pas celui qui juge. On a scindé les rôles pour éviter un pouvoir totalitaire. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque du peuple d'Israël et encore du début du Nouveau Testament, c'était courant que celui qui règne rende aussi la justice. C'était la même personne qui le faisait. Et Dieu, c'est la même chose. Quand il reviendra pour régner, il jugera. Donc dans jugement, n'entendez pas juste l'aspect de jugement, mais l'aspect complet du règne de Dieu qui fait que toute la création pliera le genou, que toute la création louera Dieu. Parce qu'il règne et qu'il juge. Ce jugement Il y a plein de petits mots qu'on pourrait mettre en parallèle, qu'on trouve dans la Bible. C'est le feu éternel, la honte éternelle, la ruine éternelle, le châtiment éternel. Justement, ce jugement, c'est, comme je disais au début, la deuxième partie de ce chapitre, les versets 4 à 10, c'est la réalité ultime qu'il ne faut pas, pour nous chrétiens, oublier. C'est le fait que Dieu a toujours le dernier mot et que la justice divine finira par frapper le méchant, mais sauver le juste. On pourrait croire que Dieu a oublié. Mais comme l'a rappelé Pascal, je crois, dans sa prière, il ne sommeille, il ne dort, celui qui veille sur Israël. Et pour nous rappeler ça, pour nous vraiment nous montrer que cette réalité ultime est vraiment vraie, que Dieu aura toujours le dernier mot, Pierre nous rappelle trois événements de manière chronologique de l'Ancien Testament qui confirment la conclusion qu'il donne au verset 9. Il dira au verset 9 « Ainsi donc, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve les personnes pieuses et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront punis. » Pierre, donc, il fait une liste de trois événements passés pour, en fait, nous rappeler que si Dieu n'intervient pas tous les jours, n'intervient pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais le faire pour arrêter ceux qui sont mauvais. Dieu interviendra un jour contre les faux docteurs. On peut en être certain. Pourquoi ? Parce que dans le passé, il l'a fait. Il est intervenu pour juger le péché. Alors, Pierre cite les anges, ou j'en déduis que c'est les anges à cause de ce qu'il dit dans ce passage, de ce qui est dit aussi dans Jude, qui est un passage parallèle. Et quand il parle des anges, il dit qu'ils sont gardés, qu'ils sont retenus en vue du jugement. Ce qui s'est passé à la création, peut-être aussi ce que l'on lit qui est un peu énigmatique dans Genèse 6, quand les anges s'accouplent avec les êtres humains, avec des femmes. On voit que les anges ont été déchus. Et on voit qu'après tout cela, les anges mauvais sont retenus, sont gardés pour le jour du jugement. Et puis on voit qu'avec l'ancien monde, avant Noé, avec l'ancien monde, avec le déluge, avec Noé, qui est appelé ici le prédicateur de la justice, par opposition à l'injustice, vous avez déjà réfléchi avec Noé à ce qui s'est passé quand même quand il construisait le bateau ? Vous voyez, un jour, un gars qui commence à construire une immense arche au milieu d'un désert. Mais visiblement, il a parlé aux hommes, il les a invités à changer leur comportement, à placer leur confiance en Dieu, mais ils n'ont pas écouté. Et Dieu a jugé le monde. Et il n'a sauvé que Noé et sa famille. Et puis, on a encore l'exemple aussi de Sodome et Gomorrhe, et le feu qui a détruit ces villes. Et au milieu de tout cela, Lot, appelé ici aussi le juste. Sodome et Gomorrhe étaient des villes caractérisées par le viol ou le désir de viol. Et on le voit pour ceux qui se rappellent, et vous pourrez relire dans la Genèse ces épisodes, caractérisées par l'homosexualité, par la violence, la méchanceté. De tout temps, encore aujourd'hui, ces pratiques sont inacceptables aux yeux de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis l'histoire de Lot, j'arrive pas forcément, comme ça, à premier coup d'œil en tout cas, à voir ce que Pierre dit là. Mais Pierre, inspiré par Dieu, par l'Esprit, nous révèle le cœur de Lot à l'époque. Lot, il s'est sûrement conformé aussi un peu aux habitudes de l'époque, notamment quand il donne ses filles. Mais on voit là que Lot était triste, affligé de l'injustice de ses contemporains. Il était tourmenté dans son cœur pour tout ce qui se passait autour de lui. On voit avec tous ces exemples que, en fait, Pierre nous dit « Ne soyez pas induits en erreur. Dieu aura le dernier mot. » Il y en a qui vous promettent le beurre et l'argent du beurre, mais en fait, ceux-là, ils ne résistent pas à leurs désirs. Ils sont juste en train de les justifier. Vous pensez que cela tire leur épingle du jeu? Il y a certains prédicateurs, enseignants, qui ont des moyens considérables, des sites internet qui marchent à fond, qui vendent des milliers de bouquins, qui sont, comme ça en tout cas, assez crédibles. Mais ils n'ont rien à voir avec ceux qui, au quotidien, fuient la corruption, recherchent la maîtrise de soi, poursuivent la sainteté, aiment leur Église de manière sacrificielle. Dieu dit, les faux docteurs seront jugés. Dieu juge et sauve. Et j'aime bien ce passage dans l'Épître aux Thessaloniciens, c'est le verset 9 du chapitre 5, qui nous dit que Dieu n'a pas destiné l'Église à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu préservera son peuple du jour du jugement, car il ôtera d'abord son Église. Dieu juge. Et ce jugement viendra contre ceux qu'il appelle des taches, contre la souillure, contre tous les plaisirs illicites de la chair, contre le mépris de l'autorité de Dieu. On voit là à nouveau que, petit à petit dans ce passage, Pierre il va pointer, pas les apparences, mais ce qui est au cœur, dans le cœur des personnes, et qui conduit à la catastrophe. Parce que la réalité que nous voyons dans la fin du chapitre, à partir du verset 10, c'est une réalité qui est terrible, qui est destructrice. Et Pierre va dénoncer avec force des comportements, des discours qui sont inacceptables et qui appellent des sanctions divines. Nous voyons que ces personnes sont insolentes, présomptueuses, effrontés, assurés, satisfaites et sûres d'elles-mêmes, sûrement des gens qui ont un sens aigu de leur importance. Dans leurs activités, ils injurient les gloires. Je parlais des anges tout à l'heure, je pense qu'aussi, ici, il s'agit de tout ce qui est spirituel. Des personnes qui méprisent le spirituel, qui ridiculisent ou qui se croient supérieurs, alors que les anges sont supérieurs en force et en puissance, nous dit le passage. Il faut probablement se méfier des gens qui chassent trop rapidement les démons, ou avec cette arrogance d'être supérieur. J'ai été une fois... Nous avons été, avec les anciens de l'église de Nantes, où j'étais en stage, confrontés à une présence démoniaque. C'était chez l'un des anciens. Il ne pouvait plus exercer son ministère parce que, à chaque fois qu'il recevait une personne dans son bureau, il y avait une ombre réelle qui bougeait sur une étagère. Je peux vous dire que la famille était comme ça, hein ? Au bout de quelques jours, quelques semaines, où ça se produisait à répétition, l'épouse et les enfants sont partis de la maison. On est allé avec les anciens prier. On était comme ça. On n'a rien vécu de magique. Il ne s'est rien passé de particulier. Ce qui est sûr, c'est qu'après ce moment de prière où tous les anciens en étaient dans cette maison, les choses se sont arrêtées. Le ministère de ce frère a pu reprendre d'une manière différente parce que, en même temps, le Seigneur nous a montré des choses qu'il fallait régler Mais il n'y avait, je vous assure, aucune arrogance, aucune supériorité dans nos prières, dans nos propos, dans notre manière d'agir. Et parfois, je dis ça, c'est pour illustrer le fait que parfois, quand je vois dans certaines vidéos ou enseignements le fait que certains chassent comme ça de manière en plus spectaculaire, mais de manière surtout arrogante par rapport à ce qui est spirituel, est-ce qu'ils oublient que les anges, les esprits sont supérieurs en force et en puissance et que sans Christ, nous ne sommes que dalle? Sans Christ qui nous protège, qui par sa puissance nous garde, nous ne sommes rien face à ce qui est spirituel. Et si nous pouvons faire des choses, si Dieu nous donne, nous accorde de réaliser des choses, c'est que grâce à lui, à sa force, à sa puissance. Quand nous, ou quand certains voudraient fanfaronner, j'ai retrouvé cette image dans un enseignement que j'avais, où j'avais pris des notes une fois. C'est un peu comme si une bougie se vantait devant un dragon. Vous voyez un peu l'image ? Un peu comme une bougie qui se vanterait devant un dragon. Quand nous sommes face au spirituel, des fois, nous sommes face à des choses qui nous dépassent, qui sont bien plus grandes que nous. Où nous avons besoin que Dieu nous montre, que Dieu agisse, que Dieu fasse. Ce n'est pas nous qui sommes pour grand-chose. Tout cela conduit, pour les faux docteurs, à l'immoralité. On voit qu'ils ont des cœurs, des yeux adultères. Voilà le regard de Dieu sur ceux qui ne veulent pas tenir compte de toute la parole de Dieu, mais que tout ce qui les intéresse. Pierre nous dit là qu'ils sont aux prises avec la volupté. La volupté, c'est peut-être plus un mot à la mode, mais en gros, ça veut dire une vie de mollesse, que de douceur, mais qui nous entraîne dans de mauvaises choses. Ils sont trompeurs, ils ne sont que défauts et tâches, nous dit le passage. Ils recherchent des gens vulnérables. Ils sont cupides, avides d'argent. Ils sont finalement des enfants de malédiction. Il ne faut pas se tromper. Un faux docteur, comme je disais tout à l'heure, ce ne sera pas flagrant comme ça à première vue. Parce que probablement, c'est des personnes qui parlent bien, beaucoup, qui parlent de choses extraordinaires, qui impressionnent, qui font plaisir à ceux qu'ils courtisent. On voit là, dans ce passage, qu'ils font même la fête avec les chrétiens de l'Église. Donc ils paraissent en fait comme tout le monde. Ils sont séducteurs, ils savent suggérer le dévouement, l'attention des autres, mais tout ça est centré sur eux, pas sur Dieu. Tout ça refuse l'autorité de Dieu dans leur propre vie. Et on a ce rappel de ce qui s'est passé avec Balaam. Alors Balaam, je ne vais pas refaire toute son histoire maintenant, je vous invite vraiment à lire chez vous les chapitres 22, 23, 24 de Nombres, du livre des Nombres. Ce qui est frappant avec Balaam, je vais faire un court résumé, parce que franchement, quand vous allez lire les chapitres, vous direz que ça ne saute pas aux yeux en fait, ce que dit Pierre ici. Hein. C'est que Balaam, donc il est caractérisé comme faux prophète, mais en fait il a prophétisé que des choses vraies, et qui se sont toutes réalisées. Ah, un faux prophète, en fait, mais que Dieu, à qui Dieu a inspiré, que des choses qui ont été vraies, qui se sont réalisées. Sept prophéties, toutes conduites par Dieu. Et honnêtement, quand on lit son histoire, sa motivation, ce n'est pas évident tout de suite. Hein. Mais c'est petit à petit révélé dans la Bible. C'était l'appât de l'argent. Pour un gain sordide, il a accepté de jouer son rôle de prophète et cela a conduit tout le peuple dans l'idolâtrie et l'immoralité. Mais en fait, quand on lit l'histoire, on voit que il n'a pas réussi à maudire le peuple comme ça lui était demandé par Balak. Parce que Dieu a empêché ça. Au contraire, il a béni le peuple, il a prophétisé des choses qui se sont réalisées. Mais on voit que Dieu réprouve l'utilisation de l'occultisme pour Balaam. Et puis on voit surtout que, comme Balaam n'arrive pas à faire venir le jugement de Dieu sur Israël, parce que c'est ce que demandait Balak, et c'est pour ça qu'il était payé, eh bien on voit un peu plus loin dans Nombre, c'est Nombre 31, verset 16, que Balaam en fait a encouragé des femmes à séduire les Israélites qui ont finalement couché avec elles, puis ces femmes ont entraîné les hommes d'Israël dans l'idolâtrie et ont ainsi entraîné le jugement de Dieu. Balaam, qui était un faux prophète, même s'il a prophétisé des choses vraies, a finalement réussi son coup. Il ne pouvait pas maudire Israël, mais il a poussé le peuple au mal en tendant un piège. Et du coup, c'est Dieu qui a été conduit à punir le peuple à cause de son péché. Donc vous voyez, on voit bien justement avec l'histoire de Balaam que ce n'est pas si simple que ça que de détecter un faux prophète ou un faux docteur. La motivation, honnêtement, et lisez les chapitres, ce n'est pas flagrant tout de suite. C'est parce que la Bible le dit à plusieurs reprises qu'on sait que Balaam est un faux prophète, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a prédit et qui s'est passé, mais qui était conduit uniquement par Dieu. Juger de la moralité, des motivations, c'est jamais simple, ça demande, ça prend du temps. Ça demande aussi de se connaître. Je ne peux pas ce matin, comme Pierre le fait, dire « voilà, un tel est un faux docteur ». Je ne peux pas. Parce que ça demande du temps pour juger de la moralité et des motivations. On voit aussi que ces faux docteurs sont des séducteurs. Ils parlent beaucoup, hein, ils ont la tchatche, comme on dit, mais il n'y a rien dans le discours. C'est de l'extravagance associée à l'absence de substance. Ils mettent un appât, ils amorcent, ils séduisent. Ils promettent ce que eux-mêmes ne vivent pas. C'est très facile pour un faux enseignant de séduire notamment des jeunes convertis. Parce que quand on est jeune converti, on est plein d'enthousiasme, on est plein de joie, on rayonne, et puis arrivent les premières difficultés, les premières luttes avec le péché qu'on a dit qu'on abandonnait pour Christ, les premières surprises, les premiers découragements. Et c'est là qu'un chrétien est le plus fragile. C'est à ce moment-là qu'un faux docteur est le plus dangereux pour ces jeunes convertis. Parce que quelle liberté est promise par les faux docteurs ? En fait, c'est une liberté où le respect de la loi morale de Dieu n'est plus nécessaire. Tu es à Christ, tu es libre maintenant, fais ce que tu veux. Mais faire et suivre ce chemin-là ne fait que nous conduire à un nouvel esclavage encore plus fort. Parce que ces faux docteurs, en fait, sont esclaves de leurs désirs. Et promettre la liberté sans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est seulement la liberté de sombrer de plus en plus dans l'esclavage du péché. Pour faire mourir le péché, il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Il faut porter du fruit, travailler à ajouter à la fois la connaissance, la maîtrise de soi, la piété, l'amitié, l'amour. Parce que finalement, ces faux docteurs sont des faux disciples. Ils connaissent, et je pense que Pierre, là, dans ce passage, part d'une connaissance qui est surtout intellectuelle. Ils connaissent les faits, ils connaissent beaucoup de choses sur Jésus, mais ils s'en détournent. Leur connaissance n'engendre pas une domination supérieure du péché. Leur condition est pire, nous dit le passage. une condamnation plus sévère encore, parce qu'ils ont connu. Et ça, justement, ça ressemble si bien au comportement des chiens et des truies. On a un exemple dans la Bible de cela. C'est dans Acte 8 avec Simon le magicien. Vous connaissez peut-être ce passage. C'est un homme qui croyait et qui voulait se faire baptiser. Cependant, sa conversion n'était pas authentique, puisque Pierre lui-même discerne que sa motivation était en fait d'acheter auprès de Pierre comme une puissance supplémentaire, celle du Saint-Esprit. Parce qu'il pratiquait l'occultisme et il voulait en fait rajouter à ses cordes une puissance de plus, celle du Saint-Esprit. Alors Pierre lui dit, c'est dans Acte 8, verset 20, « Que ton argent aille à la perdition avec toi. » Que ton argent aille à la perdition avec toi. Et finalement, Simon a continué son chemin dans l'occultisme. Et j'ai lu pas mal de choses à une époque d'historiens de l'Église qui parlent de ce magicien qui, effectivement, a énormément marqué le monde de son époque par la puissance et par ce qu'il faisait. Et il a détourné énormément de chrétiens de son époque. Mais c'était un faux disciple. Il n'était pas réellement Christ. Alors ce matin, si ce passage a commencé avec l'autorité de la parole de Dieu, et s'il se termine avec une longue description de ces hommes qui semblent parler au nom de Dieu, mais dont la vie montre qu'ils ne sont que des faux prophètes, j'aimerais que l'on puisse prier, que le Seigneur nous garde en tant qu'Église pour vraiment demeurer attachés à sa parole, attachés à lui. Et que cet attachement il soit en fait plein d'une passion et d'une intégrité qui soit vraiment profonde, pas superficielle.